Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. C'est un épisode très particulier pour nous que ce 23e instant juillet. C'est le premier de cette année 2022 qui sera fondamental et c'était aussi celui de notre rencontre avec Safia Oesfel. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et notre chemin devait croiser celui de Safia. Auteure et philosophe, nous l'avons découverte sur la chaîne belge LN24 alors que nous étions confinés. Sa chronique évoquait alors Albert Camus et l'été invincible que nous avons tous en nous. Et à cet instant précis, nous nous sommes rencontrés. Chaque phrase prononcée par Safia nous a semblé écrite pour nous. Et au cœur de ce confinement, au moment de la naissance de juillet, sa voix a résonné en nous intensément comme un signe, comme une main tendue vers demain. Chaque projet est rencontre. Et aujourd'hui, si juillet est beaucoup plus qu'une simple agence événementielle, c'est aussi grâce à Safia. Alors j'ai hâte de partager avec vous ce rendez-vous avec Safia le temps d'un instant juillet. Donc Safia, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Parce
Merci
que malgré l'aisance et ton professionnalisme à la télé, je sais à quel point c'est un exercice difficile pour toi aujourd'hui et nous sommes vraiment très touchés de ta confiance. Tu le sais, nous étions impatients de te rencontrer et pourtant nous ne nous sommes jamais rencontrés et nous avons l'impression de nous connaître déjà. Et c'est très émouvant de se sentir intime avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré.
Et c'est très réciproque.
Merci beaucoup. Alors j'aimerais commencer notre discussion en parlant de l'été invincible qui nous a fait finalement nous trouver. En quoi ces mots résonnent pour toi ?
La phrase de Camus, donc, j'ai trouvé en moi un invincible été.
Exactement.
Au milieu de l'hiver. Mais je pense que c'est vachement l'image de la vie, en tout cas l'image de la vie telle que j'ai envie de la mener, telle que vous avez envie de la mener, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Parce que je pense qu'on a en nous énormément de fragilité, de mélancolie, on a parfois une propension à vouloir se coucher ou s'éteindre parce qu'on est bouleversé par les non-sens de l'existence humaine, par ce qui nous fragilise et ce qui nous violente. Et je pense que cette résistance existentielle d'émerveillement, de bonheur, d'avoir envie de s'inscrire dans la vie, d'avoir envie d'aller puiser dans la vie humaine, quelque chose qui fait sens et qui fait sens pour nous-mêmes et pour les autres, c'est ça l'invincible été. C'est le fait de, malgré toutes les turpitudes qu'on nous impose, continuer à voir le beau et même faire naître de la beauté dans du chaos et faire naître du beau à partir du lait. Parce qu'on a en nous ces deux pôles, il faut pouvoir les faire coexister et il faut pouvoir faire en sorte que l'un des deux prenne l'ascendant sur l'autre. Et moi, j'ai choisi de faire en sorte que ce soit le beau qui prenne l'ascendant dans ma vie, malgré toutes les difficultés, malgré toute la tristesse qui peut parfois m'habiter. Il faut pouvoir faire gagner la joie, comme le disait Spinoza. Et j'essaie, autant se faire que peu, de faire gagner la joie.
Et c'est exactement, du coup, ce qui nous a porté, nous, quand on a voulu créer Juillet, et justement au cœur de ce confinement à l'époque, qui était quand même très triste pour tout le monde et très sombre, et tout le monde se disait on ne va jamais se sortir de cette situation. On avait envie de se dire, mais non, au contraire,
Bien sûr. Vie
est là, oui. La vie est encore très belle et encore plus belle, et on va tous sortir de cette situation. Et donc, voilà, on t'a écouté à ce moment-là, alors qu'on pensait ça, et on s'est dit, on n'est pas seul. On n'est pas seul.
Ouais, je pense que c'est ça en fait, la démarche de l'art ou la démarche des projets humains comme le vôtre, c'est cette possibilité de créer de l'intimité, en tout cas de pouvoir faire des ponts entre l'intime et l'universel. Je pense que en fait, il y a des émotions humaines qui sont tout à la fois ce qui nous définit en tant qu'humain et ce qui nous définit singulièrement en tant que personne. Et quand je porte mes textes et quand j'écris mes textes, j'essaie de partir d'émotions positives ou négatives qui me sont personnelles et de mesurer la portée universelle de ces émotions Bah pour créer du lien, pour qu'on sente qu'on n'est pas seul. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort dans nos vies que de pouvoir écouter quelque chose ou de pouvoir lire quelque chose et dire « mais ça c'est moi ».
Exactement.
Ça c'est ce que je ressens, ça c'est ce qui me traverse. Il y a quelque chose de tellement libérateur et émancipateur là-dedans que je pense que chacun à notre échelle, pas forcément dans l'art, moi c'est mon canevas, mais je veux dire, on peut tous créer ça à notre échelle, ce sentiment chez l'autre d'identification, ce sentiment de libération par l'émotion partagée. Et je pense que quand on s'emploie à faire advenir ça dans la vie, on est peut-être un peu plus heureux, ou en tout cas un peu moins malheureux.
C'est sûr, c'est sûr. Et aussi un peu plus libre, parce que quelque part, on se donne la liberté d'aller vers l'autre, de découvrir, de se laisser surprendre par ce qui peut arriver, et de se dire qu'on peut toujours apprendre, toujours avancer, et toujours être émerveillé par l'autre.
Oui, je pense que c'est ça, l'émerveillement. Je pense, moi, je vis l'émerveillement, en tout cas, j'appréhende l'émerveillement comme une résistance. Parce que je pense qu'on est dans un monde qui est extrêmement cynique, à plein d'égards, il est vraiment très cynique. Il y a une portée cathartique, et c'est très problématique, mais il y a une forme d'exutoire chez beaucoup de personnes dans la virulence, dans la violence. C'est presque devenu une nécessité de l'interaction humaine et sociale aujourd'hui. Ça se voit beaucoup sur les réseaux notamment.
Pour s'affirmer peut-être.
Pour s'affirmer ou pour se délester de frustration. Et je ne pense pas qu'on puisse l'appréhender éthiquement comme étant le mal. Je pense que ça relève plus d'une maladie sociétale plus globale qu'on a tous à endurer. Et donc, il y a des personnes, je pense, qui cèdent à ça. Et oui, la société est devenue très cynique. Et donc, penser l'émerveillement comme un acte et pas seulement comme quelque chose de passif. Parce que forcément, parfois, l'émerveillement, ça nous tombe dessus. Mais choisir l'axe de l'émerveillement pour rencontrer le monde et rencontrer les gens, pour moi, ça relève de la résistance face à un monde qui est en déclin et qui flirte parfois avec l'obscurité et la noirceur.
Et la rencontre, quelque part, c'est ce qui peut aussi tout changer, tout bouleverser. En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. On l'a évoqué, tout projet et rencontre, on croit vraiment à ça. Et ça veut dire que de rencontrer quelqu'un, une personne qui va nous guider sur un projet, ça peut totalement bouleverser nos vies. Et il faut après l'audace, peut-être, de saisir ça et d'oser le faire. Parce qu'après, effectivement, il est plus confortable aussi de dire « Ok, je ne change pas ma vie et je ne me pose pas de questions et je continue ma route sans me dire ah, « Peut-être que là, cette rencontre, elle peut être intéressante et elle peut totalement bouleverser ma vie. Je me laisse porter et émerveiller par ça. »
Oui, bien sûr. En fait, j'ai réfléchi à ça récemment. Je pensais à la notion d'échec. Et je me disais, tiens, finalement, l'échec, est-ce que c'est d'entreprendre, est-ce que c'est de se lancer et puis d'échouer et de se planter, ou est-ce que c'est de passer à côté de soi et de ses potentialités en ne faisant rien? Et finalement, je pense que la plus grande forme d'échec, c'est peut-être ça. C'est peut-être vivre avec ce regret de ne pas avoir été au bout de soi-même. Et je pense qu'il y a peut-être plus de violence immédiate dans le fait de se lancer et puis de s'écraser. Là, je pense que la violence ressentie dans l'immédiateté est plus grande et elle fait plus mal, mais sur le long terme, elle est plus facile à relativiser.
Tout à fait.
Alors que dans le fait de passer à côté de soi ou de ses projets, il y a une violence qui est plus silencieuse, plus insidieuse, mais qui nous consomme et qui nous fait du mal plus longtemps et sur le long terme.
Qu'on peut mettre de côté, mais finalement qui finit toujours par ronger et qui fait un mal-être.
Et nous défaire de nous et de notre identité. Et donc je pense que finalement, entre ces deux formes d'échec, je préfère celle qui pourrait potentiellement me permettre de gagner. Parce qu'il y a quand même une... Alors que dans l'autre, on échoue toujours.
Et pour ça, il faut quand même se libérer de plein de choses. Parce que quelque part, on nous apprend beaucoup, quand on est enfant, justement, à cadrer les choses, à apprendre petit à petit pour progresser et finalement rentrer dans une case pour être à l'aise, intégré dans une société, etc. Et quelque part, quand on décide de se dire « Ok, là, il faut que j'ose quelque chose qui va me ressembler, mais en fait, je vais sortir totalement de la ligne qu'on m'a appris, comment je vais faire ?» Donc en fait, c'est ça aussi parfois qui ronge, c'est comment on sort de ça.
Oui, et je pense que relativement à l'apprentissage, il y a deux formes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage social, sociétal, qui justement a une propension à codifier un petit peu notre rapport aux choses et à nous-mêmes et à nous encercler, en tout cas à nous encaser, pardonnez-moi le néologisme, mais... ou alors, à l'inverse, il y a l'éducation intime, familiale. Enfin, pas à l'inverse, parfois elles sont complémentaires, mais on s'entend. Moi, j'ai eu la chance, dans mon éducation familiale, intime, en tout cas, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, à être amenée à me transcender, à être... La quête de l'absolu, elle fait partie intégrante de mon éducation. Dans le film, alors je ne sais plus quel réalisateur, mais c'est un film dans lequel Will Smith joue, qui s'appelle La poursuite du bonheur, Pursuit of Happiness avec un Y.
Oui, oui.
Et à un moment donné, il est avec son fils au terrain de basket, et il lui dit « N'écoute pas les gens qui pensent que c'est trop difficile, ça l'est sans doute pour eux, mais toi, tu es différent. Si tu as un rêve, tu dois le préserver. » Je pense que ça résume assez bien mon éducation. « N'écoute pas les gens qui pensent que c'est trop difficile, ça l'est sans doute pour eux, mais toi, tu es différent. » Et c'est pas que dans l'absolu c'est trop difficile pour eux, parce que je pense qu'on a tous en nous quelque chose qui nous rend unique, mais je pense qu'il y a des personnes résignées.
Tout à fait.
Résignées notamment de par leur éducation, qui considèrent qu'elles ne sont pas légitimes à partir en quête existentielle d'un absolu ou d'une grandeur. Mais la grandeur humaine, on la porte tous en nous. Et en fait, l'enjeu existentiel humain, c'est d'aller la réveiller. Et je pense que tous, à notre échelle, on peut évidemment s'employer à la réveiller en nous-mêmes, mais on peut aussi accompagner les autres dans la façon dont on les aime, dans la façon dont on les écoute, dans la façon dont on les chérit et dont on les met en valeur. On peut aussi accompagner les autres dans cette quête pour aller chercher cette grandeur en eux. Et moi, dans mes interactions humaines ou dans mon art ou dans ma façon de porter mes textes, j'ai envie humblement et à mon échelle à moi d'inciter les autres à aller chercher ça en eux, parce qu'ils m'émerveillent tout le temps, les autres. Et ils me grandissent.
Et c'est quand même incroyable, parce que quelque part, à notre modeste échelle, nous, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand on écoute ta chronique sur l'invincible été, mais sincèrement, nous, on se dit « Ouais, ok, on fait pas fausse route, on n'est pas seul. » Et même si tout le monde nous dit que c'est folie, en plein confinement, de créer une entreprise qui veut faire des événements, etc. Et donc, c'est un sujet totalement anecdotique par rapport à la philosophie qu'il y a derrière, mais c'est de se dire... Non, il y a des gens qui sont en train de nous expliquer que c'est, voilà, c'est possible et on peut le faire, parce qu'en fait, on s'en sent capable et on a envie, donc on le tente.
Ouais.
Donc ça a été une main tendue, c'est ce que je dis dans l'introduction, mais vraiment ça, on l'a pris comme un signe. On s'est dit, ouais, vraiment là, on le fait, parce que même Safia, elle nous dit qu'on le fasse.
Mais ça, c'est, je pense, franchement, vous dire, c'est le plus beau des cadeaux. Enfin, ce que tu me dis, c'est le plus beau des cadeaux. Ces mots-là, c'est comme s'il y avait une portée matérielle à ces mots et que je pouvais les mettre en moi et les porter. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a une réciprocité dans les interactions et dans le fait de grandir ensemble. Mais quand tu disais que c'est anecdotique, moi je pense que c'est pas anecdotique en fait, parce que c'est ça qui fait ta vie et qui fait la vie humaine en fait. Et en fait, ça, tu disais que ce basculement dans ta vie à toi, à l'échelle de la philosophie, peut être anecdotique, mais la philosophie... où ces grandes pensées, donc pas les miennes, hein, celles de Camus, je précise quand même, mais ces grandes pensées, celles de Camus, ou ces messages forts qui nous portent et qui nous parlent, ils nous permettent justement de faire en sorte que l'anecdotique, que ce qui pourrait relever de l'anecdotique, devienne une immensité.
Mais en plus, moi, ça m'a aidé à me comprendre, moi. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on a un projet comme ça qui nous porte, on vit un bouleversement important. Et on sent que ça bouleverse quelque chose en nous. On sent que ça remet en question plein de choses. Et parfois, on a du mal à prendre du recul ou à se dire « Je suis en train de vivre quelque chose qui me perturbe beaucoup. Comment je vais gérer ça ?» Et de relire Camus à ce moment-là,
ouais,
ou de relire des textes comme ça, on se dit « Ah, mais ok, c'est qu'en fait, ce que je vis, c'est un bouleversement important d'une vie. C'est arrivé dans d'autres domaines à d'autres gens. » Et ils y ont pensé, ils ont travaillé dessus, et moi, de lire leurs phrases, je me dis « Ok, je vais avancer là-dessus, et c'est important ce que je vis, et il faut que je le vive pleinement, intensément, que je mesure le bouleversement et que je laisse aussi ça se faire. » C'est-à-dire, j'ai besoin de laisser ça en moi bouger pour créer le reste.
C'est comme s'il y avait une sorte de mouvement qui se créait en toi.
Exactement.
Tu vois, c'est magnifique, cette idée de création de mouvement à l'intérieur de soi, à partir d'une extériorité qui nous porte. Tu vois, le mouvement de va-et-vient entre soi-même et l'altérité, mais l'altérité jumelle, en fait, tu vois.
Exactement.
C'est sublime.
Comme une autre.
Ouais, c'est ça, une autre. Enfin, j'aime bien l'idée que l'altérité ou l'autre peut nous ramener à nous. Et en fait, j'aime bien finalement l'idée de la nécessité de sortir de soi pour revenir à soi-même après. Parce que dans ce mouvement-là, on prend quelque chose de l'autre et on l'amène à nous. Et je pense que c'est un peu aussi ce qui s'incarne dans votre démarche. Et c'est pour ça que moi, j'étais très touchée par votre démarche et que j'ai eu envie de participer au projet. Mais ça rend aussi compte de quelque chose qui n'est vraiment pas anecdotique qu'à mon sens, et que je dis tout le temps, je me répète un peu. On se répète toujours tous, je pense, pardonnez-moi. Mais c'est le fait que tous les objets du monde, objets au sens matériel ou non, toutes les conceptions, tous les concepts, tout est potentiellement objet de philosophie. Tout peut être de l'ordre de la philosophie, ce qui veut dire que la philosophie, c'est la discipline à la fois la plus profane et à la fois qui a la plus grande propension à nous élever humainement, intellectuellement et émotionnellement. Parce que, par définition, si elle devient une discipline fermée, elle n'existe plus, c'est un non-sens. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une discussion qui pense le réel et qui pense la vie humaine. Et donc, par définition, c'est une discussion philosophique. Et donc, le fait qu'on puisse tous la voir en propre et qu'elle puisse nous amener à nous dépasser nous-mêmes et à grandir tout le temps, c'est comme si c'était une sorte d'acquis pour nous-mêmes pour toujours. Et moi, je trouve ça bouleversant. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là.
Et en plus, c'est non seulement c'est pour toujours, mais quelque part à travers le temps, je trouve, parce que là, clairement, moi, j'ai la sensation d'avoir rencontré Camus et d'avoir échangé avec lui. Ouais. Il m'a apporté énormément, alors qu'effectivement, je n'ai pas pu le rencontrer. Il est décédé bien avant que je naisse, etc. Mais de lire ses écrits, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Alors que c'est impossible, mais ça veut dire que voilà, c'est merveilleux. Et c'est l'humanité à travers le temps. Je trouve ça vraiment... Moi, je trouve ça hyper touchant.
Et l'immortalité. Il y a une forme d'immortalité. Enfin, ça rend compte de la dimension d'immortalité qui existe quand même dans nos vies. Il y a quelque chose qui relève de l'absurde dans l'existence humaine. Par définition, on arrive à ce monde pour le quitter. C'est horrible. Et ça, c'est ces notions-là, ce passage, par exemple, de Camus à toi, alors qu'il est décédé, ce que ça suscite en toi, ce mouvement que ça crée en toi, c'est la part de spirituel et d'immortalité qui nous permet, en fait, de ne pas être là vainement et qui donne un sens à notre existence. Et si on n'a pas ça et si on ne travaille pas cette question, en fait, on est dans une forme de linéarité qui est vaine, en fait. Et il faut pouvoir créer quelque chose qui lutte contre ça, tout le temps. Et je pense que dans des démarches comme la vôtre, il y a cette aspiration à sortir du caractère vain, d'avancer dans la vie sans tout le temps la remettre à l'épreuve d'elle-même. Et ça, je trouve ça trop beau.
Merci beaucoup. Et de transmettre en plus, vraiment, c'est ça. Parce qu'aussi, la rencontre, l'émotion, c'est ce qu'on a voulu faire aussi en créant des instants. On a appelé ça plutôt des instants plutôt que des événements. Parce que c'était vraiment pour nous de dire, on se rencontre et on crée un instant. Et parfois, ça peut tout changer dans une vie. Nous, si on organise un événement où deux personnes se rencontrent et changent derrière leur vie parce que un coup de foot professionnel, parce que une ambition nouvelle, parce que une découverte incroyable sur un territoire et je veux changer de vie totalement. Enfin, nous, c'est ce qu'on a envie de donner aussi, de dire que la vie, elle n'est pas linéaire et qu'elle peut être totalement surprenante et bouleversée par une rencontre. C'est vraiment ce qu'on a voulu donner.
C'est sublime. C'est vraiment très bien.
Merci beaucoup. Et du coup, on a beaucoup parlé de Camus. Ouais. Est-ce que tu as, toi, d'autres personnes qui t'ont vraiment inspiré ou qui te suivent ou qui te guident?
Alors, la personne qui m'a le plus inspiré sur un plan artistique, c'est un poète. Donc, c'est à la fois un chanteur, à la fois pas un écrivain, mais quelqu'un qui écrit aussi, c'est Léo Ferré. Ceux qui me connaissent un peu seront pas très étonnés de ma réponse, mais Léo Ferré, pour moi, c'est le plus grand parmi les grands, parce qu'il a cette aptitude à sublimer sa mélancolie pour en faire une force d'existence incomparable. Parce que chaque fois que je l'écoute, tu parlais de Camus et du fait qu'en écoutant Camus, t'as le sentiment qu'il s'adresse à toi alors même qu'il est mort avant ta naissance. Avec Ferré, justement, je prends la mesure de ce dont je te parlais, c'est-à-dire la portée de l'immortalité. Pour moi, il incarne plus que jamais cette portée immortelle. Chaque fois que Ferré glisse en moi et qu'il coule en moi, j'ai l'impression de le faire renaître par les émotions que je lui porte. Et pour moi, ça relève du génie de pouvoir faire naître ça chez un être humain. Ferré, il m'a accompagnée depuis que je suis toute jeune. C'est mon papa qui m'a amenée à Ferré. Et j'ai le sentiment que d'avoir une intimité avec cet artiste, de l'ordre du mystique, de l'ordre de la transcendance, c'est beaucoup plus que la pure factualité terrestre et factuelle. Et je pense que quand cette spiritualité naît en soi, on sait qu'on est face à un artiste qui nous bouleversera à jamais. Et c'est le cas de Léo Ferré. Donc avant toute chose, Léo Ferré. Sinon, en littérature, le portrait de Dorian Gray est probablement mon plus grand ouvrage de référence. J'aime beaucoup Wilde. Alors, j'aime beaucoup certaines traductions parce que je pense qu'on a une propension à minorer l'importance des traducteurs dans les ouvrages.
Oui, pour les mots choisis.
Absolument,
par l'auteur,
pour les mots choisis.
Départ.
Et je pense qu'on oublie souvent à quel point c'est un art en tant que tel.
Bien sûr.
Donc, il y a des traductions que je préfère à d'autres. Ma maman l'a lu en bulgare. Elle préfère la version bulgare que la version française, par exemple, parce que ma maman est bulgare. Donc c'est très très important, je pense que c'est important de le noter parce que personne ne le note alors que ça a pour moi une portée non négligeable. Mais oui, le portrait de Dorian Gray pour cette violence intrinsèquement endurée dans son rapport à soi, dans son rapport à son image, dans cette aspiration à la beauté éternelle, à la force d'existence éternelle, alors que par définition, accepter qu'on décline sous certains aspects, c'est accepter qu'on s'enrichit sous d'autres. Et vouloir à tout prix rester figé dans notre évolution ou rester figé dans nos incarnations, c'est se refuser à d'autres pans de nos identités. Et je pense que ça explique très bien ça. Et moi, c'est une sorte de livre qui me met en garde contre mes démons à moi. Mes démons à moi, quand je me regarde dans un miroir, mon rapport problématique à mes complexes, mon rapport problématique à la violence et aux tempêtes qui se font dans mon âme et dans mon intériorité. Et en même temps, c'est aussi un livre qui est parcouru d'une poésie littéraire absolument extraordinaire, qui est parcouru d'une forme de luxure en filigrane, mais qui reste toujours très élégante. Et pour moi, il coche toutes les cases de la brillance littéraire. Donc je pense que si je devais choisir une œuvre littéraire, ce serait celle-ci. Donc voilà pour ce qui est de la musique et de la littérature.
Mais alors du coup, je rebondis sur ce que tu dis, ouais, sur les mots et la tempête que tu as en toi, ça, c'est quelque chose qui peut me parler. C'est-à-dire, est-ce que tu as la sensation, moi je l'ai souvent,
ouais,
évidemment on a une tempête en nous parce qu'on doute, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on a envie de penser la vie autrement, etc. Et d'écrire, de poser justement des mots ou de poser ça, ça évite... peut-être que cette tempête aussi, elle sorte n'importe comment, ou de manière agressive, ou de manière violente, etc. Parce qu'en fait, on en fait quelque chose pour avancer, ou pour poser une pensée, ou pour poser des mots qui peuvent nous aider à continuer le chemin.
Bien sûr.
Et du coup, les auteurs, c'est ça aussi.
Ouais, je pense que les auteurs, c'est ça aussi. Je pense que la découverte des auteurs, c'est ça aussi. Et je pense que l'exercice artistique, par définition, est une sublimation. Je pense qu'on porte tous en nous des tempêtes. Enfin, on est tous habités par des tempêtes, on est tous habités par des souffrances. Et savoir sublimer ça pour s'installer dans une forme d'harmonie, c'est un dépassement de soi nécessaire pour continuer à avancer. Il y a plein de façons de le faire. Mais en tout cas, par le prisme de l'exercice artistique, c'est comme ça qu'on fait naître du sens dans le non-sens. On fait naître de la beauté dans le chaos, et je pense que c'est vraiment très important.
Et c'est pour ça finalement que l'art et tous les arts,
tous les arts
sont essentiels.
Ah bien
essentiels,
sûr.
Voilà. Ouais. Ça a été une discussion aussi.
Oui, et, oui, c'est vrai.
Et
ouais.
Pour revenir à ce qu'on a vécu là depuis 18 mois,
18
et,
mois.
Et c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'en fait, le divertissement, le loisir, l'art, c'est un vrai métier. Et il est essentiel. C'est pas quelque chose qu'on fait juste pour s'amuser ou parce que c'est fun. Non, c'est vraiment quelque chose qui est pensé, qu'on ressent et qu'on considère comme essentiel. Et c'est parfois plus essentiel qu'une usine qui peut fabriquer des choses très techniques et très... Voilà, non, c'est essentiel là. Enfin, c'est vraiment en tout cas ce qu'on avait
totalement
envie
d'accord.
De porter.
Absolument, parce que je pense que c'est ça qui nous humanise. Il y a des choses qui nous tiennent en vie organiquement, biologiquement... Et puis, il y a certains éléments qui nous humanisent et qui font qu'on est plus que le linéaire, on est plus que le factuel. Il y a quelque chose y a des choses qui ne suffisent pas. Il y a des éléments qui sont factuels et qui nous suffisent, et une situation de vie, un toit, etc., qui sont très importants, le fait de pouvoir se nourrir, etc. Mais il y a aussi une dimension supplémentaire qui nous permet de conférer du sens à notre existence et de ne pas être dans une sorte d'indifférenciation absolue. Et c'est ça, l'art, et t'as raison. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui se crée en nous et dans le monde. Donc je suis tout à fait d'accord
avec
toi.
Parce que sinon, sans ça, en fait, juste, on est, on meurt, c'est tout.
Voilà.
Et il y a un fil droit et il se passe rien. Sans ouais. l'art, c'est ça.
Ouais, en fait, l'art fait naître du sens dans l'absurdité du monde. Camus a travaillé énormément la question de l'absurdité. Et je pense que finalement, il employait sa vie à répondre à cette question. Et que les artistes, et pas seulement les artistes, je pense qu'on est tous l'artiste créateur de sa propre vie de toute façon. Et que dans cet exercice d'aspiration à conférer du sens, on va plus loin que le point A de la vie et le point Z de la mort. Je suis d'accord avec toi, absolument.
Et alors du coup, comment imagines-tu ton demain, Safia ?
Je trouve que c'est une question très intéressante, mais très anxiogène.
Parce que exactement, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement anxiogène. Et notamment parce que je suis très superstitieuse. Mais vraiment, hein. Je suis quelqu'un de très superstitieux, j'ai des tocs, je suis très superstitieuse. Et j'ai toujours peur dans la projection de figer.
De gâcher ou de...
Oui, ou, je me dis que si je le projette de façon trop précise, par définition, je ne pourrais pas arriver à ça. Et que donc, du coup... Si je le fige dans la virtualité, ça ne pourra pas se passer dans la factualité. Donc, je n'ai jamais de réponse très précise sur ce que sera demain. Déjà parce que c'est très présomptueux d'en avoir. Mais aussi parce que ça, je le crains. Je crains d'être trop précise. Mais je sais quelles sont mes aspirations pour demain. Je sais ce que je ne veux pas, en fait. Je sais que, justement, je ne veux pas tomber dans la linéarité, que ça me terrifie. Et je pense que si je peux, très humblement, continuer à vivre de l'art... Et pouvoir rentrer en interaction avec des personnes qui ont le cœur ouvert aux sensibilités que je porte, mes demains seront des demains épanouissants et gorgés de sens. Et finalement, c'est mon seul désir.
C'est énorme. Comme
ah, c'est déjà quelque chose.
C'est quelque ouais. chose de fantastique, parce que ça veut dire que tu laisses tout ouvert et tout possible du moment qu'il y a cette sensibilité ou cette...
Mais il y a une phrase, je pense que c'est Lamartine qui dit « Le réel est étroit, le possible est immense. » Et je trouve que c'est très intéressant parce que si on travaille à trop spéculer sur demain, on rend le possible étroit. Alors que non, le possible doit rester immense. C'est là que la liberté se cache.
Alors, ça veut dire qu'on mise tout sur l'instant, qu'on vit au moment...
C'est-à-dire que même lorsqu'on vit un réel dans lequel on se sent enfermé au cadenassé, les potentialités et les virtualités qui existent autour de ce réel, dans ce réel, après ce réel, nous permettent de rester libres et de ne pas s'inscrire dans une perspective de fatalité. Moi, je suis évidemment pour l'expérimentation de l'instant présent... Évidemment qu'il y a une portée épicurienne dans mon rapport à la vie. Mais je pense qu'en tout cas, dans la projection... En fait, on doit vivre et appréhender la projection non pas comme étant quelque chose de strict, de figé, mais comme étant juste la potentialité d'une libération de moments plus difficiles ou plus précaires. Et se dire, ok, là je vis ça, j'expérimente telle chose, je suis heureux ou non, demain est un autre jour, et si je spécule trop sur demain... Je passe à côté de l'axe de liberté qui est le mystère, en fait. Et dans le mystère, il y a de la beauté. Et j'ai envie de préserver le mystère de la beauté et la beauté du mystère.
C'est une conclusion parfaite. Merci beaucoup, Safia.
Merci, merci à toi. Vraiment, j'étais très heureuse.
On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies. Et saisissez vos rêves, vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.